Vert.
Radio Campus 88.3 FM.
Sincèrement, je trouve que vous avez énormément de talent.
Quand tu fais ça toutes les nuits, tu fais à peu près la même chose, alors t'habitues.
Radio 100% jeune.
Aucun d'entre eux n'est un professionnel.
Tout le monde est dans le coup, notre époque est ainsi. Tout le monde est dans le coup, notre époque est ainsi.
Comment... Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Écoute ta fac.
Radio Campus.
Et bonjour à toutes et à tous. Il est midi sur Radio Campus Orléans. On est ravis de vous retrouver dans Écoute ta fac. Aujourd'hui, avec nous en plateau, Lucie. Et comme chaque jour, on va commencer avec un petit flash actu. Des infos internationales, nationales et locales préparées avec Lucas. En deuxième partie d'émission, on accueillera JML qui nous parlera d'un sujet d'actualité en slamant. Enfin, on terminera cette édition en parlant d'éducation aux médias avec Daniel en prévision des rencontres nationales de l'audiovisuel participatif qui se déroulera dès demain jusqu'à samedi. Voilà, c'est le programme aujourd'hui dans Écoute ta fac et c'est parti. Avant tout, on commence en musique avec Smoking Gun de Ohan Kim. Je vous laisse écouter.
Oh. my head.
C'était Smoking Gun de Ohan Kim que vous venez d'entendre à notre antenne. Et tout de suite, c'est le moment du Flash Actu. Et dans ce Flash Actu, on commence par l'actualité internationale. Violence depuis 2 jours au Kosovo entre Serbes et Albanais. Cette ancienne province serbe, avant l'indépendance du Kosovo en 2008, est confrontée à de violents affrontements. Des manifestations ont éclaté pour demander le départ de maires albanais élus dans 4 localités à majorité serbe. Une étincelle qui fait réagir au niveau international et européen. Dans notre tour de l'actualité internationale, de tristes nouvelles concernant le monde du journalisme. En Iran, le procès de Niloufar Hamedi et celui de Elab Mouhamadi se sont ouverts lundi et hier. Elles sont toutes les deux poursuivies après avoir couvert la mort en détention de Mahsa Amini, à l'origine d'un vaste mouvement de protestation en Iran. Mahsa Amini avait été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Les deux journalistes risquent la peine capitale pour propagande contre la République islamique et conspiration contre la sécurité nationale. On part aux Philippines, où, dans un pays où les médias sont régulièrement la cible d'assassinats et d'intimidations, a été tué hier devant son domicile Cristiano Budud. Dinga, c'est le 3e journaliste tué aux Philippines depuis l'arrivée au pouvoir du président Ferdinand Marcos en juin 2021. On se rend désormais dans les actualités nationales et en France, première étape hier d'une stratégie européenne visant au lancement d'une nouvelle filière industrielle, la production de batteries. L'Allemagne et l'Italie s'y sont déjà engouffrées, c'est au tour de la France désormais. Et dans le Pas-de-Calais a été donc ouvert hier en grande pompe la première usine de batteries pour véhicules électriques. L'objectif, c'est de réduire la dépendance face à la Chine, surtout qu'en 2035, ce sera la fin des moteurs électriques, des moteurs thermiques au sein de l'Union européenne. Concernant le dossier retraite, la Macronie veut faire tomber le texte de loi d'abrogation Liotte, liberté indépendant outre-mer et territoire, en utilisant l'article 40 de la Constitution, la majorité présidentielle qui use de tous les moyens constitutionnels. La commission des affaires sociales se réunit ce matin au Palais Bourbon. Lucie, tu poursuis avec les actualités nationales.
Un quart des Français fument tous les jours et on compte 8 millions de décès chaque année dû à cela. Nous sommes le 31 mai, l'OMS organise chaque année à cette date la journée mondiale sans tabac, une occasion de mettre en lumière les risques sanitaires liés à cette pratique et d'alerter la population sur les problématiques environnementales qu'elle engendre. Des chiffres qui donnent une raison supplémentaire de renoncer ou du moins de diminuer sa consommation.
Et parlons sport aussi un peu. Roland Garros, Gaël Monfils gagne face à Sébastien Baez. Voilà, une belle victoire française à Roland-Garros. On passe aux actualités locales. Carole Grandjean, ministre déléguée chargée à l'enseignement et à la formation dans le Loiret, est à Orléans. À 8h30, la ministre déléguée de l'enseignement et de la formation professionnelle est attendue à Ingres au lycée professionnel Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Une visite qui intervient dans le cadre de la finale du concours général des métiers en maintenance de l'automobile qui se tient dans cet établissement. Le lycée d'Ingres est spécialisé dans cette filière et accueillera à la rentrée de septembre 2023 une spécialisation vélo et mobilité douce, formation complémentaire d'initiatives locales en lien avec le plan d'investissement France 2030. Après un échange avec les candidats et les élèves, Carole Grandjean découvrira les ateliers de maintenance automobile et les contours de la future filière vélo et mobilité douce. Enfin, des discussions sont prévues entre la ministre et les différents participants sur la réforme des lycées professionnels. En local, on continue avec la fête foraine d'Orléans qui fait son grand retour à l'ère événementielle Le Chapiteau. Elle sera là jusqu'au 18 juin et promet cette année d'offrir encore de plus belles attractions que les années précédentes, ainsi que quelques nouveautés pour le plaisir d'un large éventail de visiteurs. Les attractions de la fête foraine sont souvent variées, allant de manèges pour enfants aux montagnes russes, plus audacieuses en passant par des jeux d'adresse et des stands de nourriture. La fête foraine ferme à 1h du matin pour les plus tenaces et les plus romantiques d'entre vous. Enfin, dernière annonce étudiante, les élections dans vos composantes, ça se passe maintenant. Elles ont ouvert hier et vous avez jusqu'au 1er juin pour voter. Voilà, c'est les actus que l'on peut faire avant d'enchaîner avec la suite de l'émission. Je vous laisse écouter Help de Conlogbo.
Charity. Looking for difference, a piece of land, overstand, and a little clarity. Maybe a few rights God given, he called them, you got a left too. Been a long time since they let you have a piece of mind to even step to. We right here, don't check and tell a live vision or the newspaper. It's full of excuses, they're not sure or the source, they sell loose papers. Tighten the noose later, but hang around long enough, them man wrong enough. Yo, Stevie don't even want a man, that bullshit, they leave him, believe him as strong as what? Injustice, unjustified and just. Disgusting how they create systems, supply and rust. Corruption, unnatural conditions and toxic waste. A toxic culture, vultures eat all that lies in the way. Who is to pray? Who got a prayer for the motherland? We gotta throw it in the air. Who is the paid? Who got a share? If he's just a brother man, even the other man. Abuses and confusion, what is illusion? Use which solution? What resolution? We spin in place, the rubber music, the revolution.
Et c'est Help de Conlogbo que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus Orléans. On va passer à la suite de l'émission en parlant du Orléans Vintage Festival. C'est le moment où on reçoit nos invités du jour.
Écoute, écoute, écoute!
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac!
Et avec nous pour parler du Orléans Vintage Festival, on accueille Camille Roland et Alban Choupi. Chaque année, le centre-ville d'Orléans accueille le Orléans Vintage Festival, un événement dédié à la culture vintage. Cela fait 4 ans que cet événement est mis en place par le Master de communication événementielle et digitale de l'IAE d'Orléans. On est ravis de vous recevoir. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci de prendre un petit moment pour venir nous présenter votre festival sur un thème que j'affectionne tout particulièrement. Avec l'équipe de Radio Campus, on se demandait d'où vous était venue l'idée de créer ce festival.
Alors, on n'a pas créé ce festival. En fait, on reprend du coup le flambeau pour cette 5e édition. On a décidé de poursuivre en fait l'Orléans Vintage Festival parce que de notre côté, on peut aussi créer un autre événement. Mais là, on a voulu le reprendre tout simplement parce que avec la période Covid, il y a eu 2 éditions qui étaient en virtuel. L'année dernière, elle était en physique et l'édition était incroyable. Donc, on se dit cette année, on veut refaire pareil, voire mieux.
Ok, le festival se déroule en centre-ville, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez nous donner des petites précisions concernant le lieu où se dérouleront les festivités ?
Alors, c'est Jardin de la Charpenterie et Place de Loire et Quai de Loire. Du coup, vendredi soir, c'est que au Jardin de la Charpenterie. Et samedi, ça sera les 3 lieux, donc Jardin de la Charpenterie, Quai de Loire et Place de la Loire.
Génial, ça va être un petit moment sympa ouais. Pour animer le centre-ville.
Exactement.
Dites-nous, de nos jours, le thème vintage est souvent utilisé pour désigner divers objets, des styles, sans véritable définition précise. Enfin, pour moi, le vintage, ça évoque un retour aux éléments et aux styles du passé, en particulier ceux des décennies passées. Quelle variété de vintage, si je peux appeler ça comme ça, pourra-t-on retrouver au Jardin de la Charpenterie les 2 et 3 juin, plutôt pin-up des années 40 ou plutôt vintage des années 90 ?
Franchement, on a décidé de mélanger tous les aspects du vintage, rien qu'avec les concerts, ça sera plus du rock des années 70. Sinon, on a un groupe aussi qui fait du rock des années 50. Donc en fait, c'est tout l'univers du vintage à partir des années 50 jusqu'à 90. Voilà, on ne s'est pas limité.
C'est génial. Je voulais demander aussi quel genre de stands seront disponibles vendredi et samedi.
Alors, le vendredi, ça sera essentiellement un cinéma en plein air. Donc, il n'y aura pas de stand, mais il y aura une animation de guitare. Donc, c'est Jay Labby qui était là l'année dernière, qui expliquera comment il construit ses guitares. Sinon, le samedi, donc, il y aura plusieurs stands de vente. On a des décorations de plaques métalliques vintage. On a le retour de la friperie, des décorations vintage.
Atelier couture.
Atelier couture, complètement. Voilà.
Ok, donc la programmation, justement, maintenant qu'on y est, offre l'opportunité d'assister au revers de mon look, dont on a parlé tout à l'heure.
C'est ça.
Juste avant que l'émission ne démarre. Le Vintage Festival offre une place spéciale pour l'écologie, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
On essaye en tout cas. Enfin, c'est un peu compliqué d'avoir cette dimension, mais on a essayé de la voir un peu plus cette année. Du coup, avec cette exposition, donc le revers de mon look qui a été faite par l'ADEME et par une association Universal Love. Donc l'ADEME nous a prêté en fait cette exposition qui parle donc de
l'impact des vêtements et des chaussures sur la planète.
C'est ça. Donc ça parle des matières et puis ça donne aussi un peu des solutions. Comment du coup, si on n'utilise pas cette matière, quoi utiliser à la place ? Et donc, pour nous, c'était bien d'avoir cette exposition parce que ça va avec le vintage aussi. Parce que le vintage, c'est aussi les vêtements, c'est pas que la déco, etc. Mais le vintage, en fait, c'est de la mode aussi qui revient constamment, quoi.
Oui, on trouve beaucoup d'habits vintage en friperie en général.
Exactement.
Donc, tout est bien ficelé finalement.
C'est
Rodrigue,
ça.
Je te laisse poursuivre.
Oui, justement, en parlant de tout ça, de fast fashion, moi, je pense à la boutique éphémère Shane qui avait ouvert sur Paris. Et je pensais, il y a cette contradiction un peu chez les jeunes à la fois de se dire, je consomme de la fast fashion et en même temps, je suis pour l'écologie. Est-ce que vous avez des retours
Je pense que ce qui joue énormément pour les jeunes, c'est le budget. Et effectivement, tout ce qui est Shein... H&M, c'est le prix. on essaye en fait de consommer mieux, mais malheureusement c'est le prix qui nous freine, parce que bah, quand on est étudiant, on ne peut pas se permettre d'acheter un t-shirt à 40 €. Donc malheureusement, je pense qu'il y a des jeunes qui essayent quand même de faire des efforts autre part. Mais après, c'est vrai que moi, le magasin éphémère de Chine, c'est, je trouve ça un peu honteux.
Après, on essaye, enfin, on essaye aussi, du coup, un peu avec ce festival, malgré tout, de faire passer ces messages-là aussi. De, ouais, un t-shirt, ça peut être plus cher, mais ça sera plus durable aussi. Et c'est ça qui est important. Alors que ce qu'on va acheter chez H&M, c'est chez Shine ou des trucs comme ça, bah, en fait, il va durer. Enfin, quelques mois, quoi. C'est hyper. Enfin, c'est dérisoire, quoi. Le prix est tout petit, mais la durée de vie aussi, quoi. Du coup, voilà.
Moi, je trouve ça super que vous mettiez en valeur ce genre de valeur à travers des événements comme ceci, à travers le vintage, etc., de lier un peu ces deux sujets.
Ouais.
Autre chose, on voulait parler un peu des artistes. Est-ce qu'il y a des activités en rapport avec en dehors du textile, pardon, j'ai un peu du mal avec celle-ci. Est-ce que dehors de ouais des friperies, etc., vous proposez autre chose?
Oui, oui, bien sûr, parce que bah en vrai, il y aura qu'une friperie et du coup, le textile, c'est enfin, c'est une part du festival, mais il n'y a vraiment pas que ça du tout. Il y a une piste de roller, il y aura aussi un espace pour les enfants, il y aura des jeux en bois.
On a la petite nouveauté également, on a réalisé un escape game sur le thème de Retour vers c'est le futur dans un bus vintage. Donc ça, c'est la petite nouveauté qui est assez sympa.
J'ai hâte de voir tout ça, en tout cas. Vous parlez d'écologie, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres objectifs à ce festival, d'autres messages à faire passer, s'il y en a. Le divertissement, c'est un objectif, si c'est simplement ça. Voilà.
C'est ça, c'est surtout ça. Non, et puis c'est créer un moment de partage aussi entre les différentes générations. C'est un événement qui est vraiment intergénérationnel et qui va toucher autant les petits que nos grands-parents, etc. Et en fait, c'est un vrai moment de partage qu'on veut créer à ce moment-là, parce que les adultes et personnes plus âgées vont montrer un peu aux enfants, moi c'était comme ça quand j'étais jeune, et les jeunes du coup vont découvrir aussi ça.
Tout en passant un bon moment.
Voilà, en fait c'est de la découverte et c'est du partage, et voilà.
Donc en fait on a cette idée de transmission pendant... Et comment on met ça en place? Comment autour d'activités on invite les gens à se rencontrer et à faire tout ça?
Briser la glace un petit peu.
Rien qu'avec le cinéma en plein air, on peut dire qu'avec Retour vers le futur, ça c'est le classique de nos parents ou de nos grands-parents. Et à côté de ça, il y aura la mythique DeLorean. Donc pour les enfants, voir une voiture qui s'illumine, qui a de la fumée qui sort. Donc en fait, c'est vraiment rien qu'avec cette activité-là, c'est un moment de partage. Après, on a aussi la fresque en soi, ça va être un moment d'apprentissage pour tout le monde, que ce soit les adultes ou les enfants. Et à la fin de cette exposition, on n'en a pas parlé, mais il y aura une fresque participative. Oui. Où donc justement, en fait, il y a un artiste peintre qui sera là, qui aura un peu prédessiné la toile. Mais chaque personne pourra apporter sa touche en lien du coup avec l'exposition. Donc pareil, c'est un moment de partage qui permet de lier à la fois les adultes et les enfants.
C'est entendu, mais le festival justement, il a un but non lucratif. Les entrées sont libres, donc tout type de public est amené à se joindre à vous, il me semble, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est totalement gratuit.
Et ces artistes, ces intervenants, vous les avez trouvés comment? Comment vous êtes rentrés en contact avec eux?
Alors, y en a certains qu'on a repris de l'année dernière. En fait, il y a certains stands, même certains...
prestataires.
Ouais, prestataires, même de musique.
Il me semble que le roller, c'était là l'année dernière aussi.
Ouais, c'est ça. En fait, les activités, les stands et le groupe de musique aussi qui ont bien marché, on les a repris. Il n'y a pas de raison qu'on ne les reprenne pas. Ça s'est super bien passé. C'est une bonne ambiance et tout ça, donc on les a repris. Et... sinon, on est aussi pas mal sollicité, parce que plus les années passent, en fait, plus le festival commence à se faire un vrai nom à Orléans. Et du coup, on a pas mal de sollicitations, que ça soit par mail, sur les réseaux sociaux. Nous, comme on en a pas mal, on se permet de faire une petite sélection, on peut dire ça. Mais en général, on essaye de reprendre un peu des animations qui ont été faites l'année dernière, et on essaye de réadapter, bien sûr, à notre sauce, parce que chaque année est différente, puisque chaque année, c'est organisé par des personnes différentes. Du coup, voilà.
Du coup, ça me fait une transition parfaite pour enchaîner sur la dernière question. Est-ce que vous avez des objectifs, d'autres projets, que ce soit pour développer le festival ou alors des projets à part qu'on en a à voir, mais que vous aimeriez mettre en place?
Concernant l'Orléans Vintage Festival ou nous personnellement?
Les deux.
Alors l'Orléans Vintage Festival, nous en fait là comme on est en dernière année de master, après on part, donc ouais. On espère juste faire au mieux la passation pour que la promotion de l'année prochaine fasse un aussi bien, enfin là je me projette en disant que cet événement sera super, mais on l'espère que, super. Voilà, que l'Orléans Vintage Festival se poursuit parce que de plus en plus, il prend de plus en plus d'ampleur, donc ça c'est top. Après personnellement, Alban, as-tu une idée?
Bah on verra. En fait on verra, c'est vrai qu'on est en deuxième année de master, du coup c'est un peu compliqué de se projeter parce que d'ici quelques mois on a fini nos études. Après de nos points de vue personnels, la plupart des personnes avec qui on travaille dans l'équipe, on veut tous un peu bosser dans l'événementiel, du coup c'est un vrai bon exercice en fait. C'est le meilleur exercice qu'on puisse avoir, c'est organiser ce festival, et c'est encore mieux s'il marche bien, et ça bah on le verra vendredi et samedi du coup.
C'est ça.
Mais j'imagine que c'est encore plus intéressant parce que le sujet a l'air de vous plaire en général.
En fait, on avait le choix aussi au tout début de l'année. On avait le choix de soit reprendre ce festival, soit de créer ce qu'on voulait en fait. Et en fait, nous, on a fait le choix de le reprendre parce que, bah, comme l'a dit Camille au tout début, c'est un festival qui nous plaisait déjà et qui porte des bonnes valeurs aussi. Et qu'on avait envie de faire perdurer ce truc-là et même de grossir un peu l'ampleur de ce festival, du coup.
C'est vrai que le mouvement vintage, il devient, ben, si je peux me permettre, de plus en plus populaire. C'est quelque chose qui revient pas mal et ça peut attirer un public assez large parce que ça offre une possibilité de redécouvrir et d'apprécier les éléments du passé d'une manière unique et nostalgique, si je peux dire ça comme ça.
C'est exactement ça.
On vous remercie d'être passé à l'antenne. Peut-être quelques derniers mots pour inviter les gens à venir.
Eh bien, venez nombreux. Venez entre amis, venez en famille, venez même seuls, ça marche aussi. Donc vendredi à partir de 19h et samedi à partir de 10h jusqu'à minuit.
C'est gratuit.
C'est gratuit, voilà. N'hésitez surtout pas à venir en masse.
Donc on le rappelle, ce sera le 2 et le 3 juin au Jardin de la Charpenterie. Merci encore, et puis on continue cette émission avec le titre « J'accepte la Claude ». Et oui, on accepte que ce soit la fin de cette interview. Il est midi 28 sur Radio Campus Orléans.
N'est pas mon chemin, je deviens celui que je veux être au contact de l'amour, de l'amour, de l'amour. Chemin, je deviens celui que je veux être, je veux être au contact de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, au contact, je veux être, je deviens pas mon chemin, pas mon chemin, que femme n'est pas, que femme n'est pas, c'est, c'est, que femme n'est pas, c'est, je deviens celui, c'est, au contact, c'est, mon chemin, c'est, que je veux être, c'est l'amour.
Et c'était le titre « J'accepte » que vous venez d'entendre à l'antenne de Radio Campus Orléans. Tout de suite, on va enchaîner l'émission avec l'artiste JML qu'on reçoit juste après ce petit jingle.
Écoute, écoute, écoute!
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac!
Et pour la suite de l'émission, on retrouve JML. Il fait du slam et nous avons la chance de l'accueillir à notre antenne. Il a notamment reçu le deuxième prix du concours Tous confinés, tous solidaires en 2020. Et il reviendra toutes les semaines pour nous partager une de ses œuvres ou un peu de ses œuvres. Le slam est une forme d'expression artistique et de performance orale qui trouve ses origines dans les mouvements artistiques du spoken word et de la poésie orale. Bonjour JML, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce pseudonyme ?
Bonjour Lucie, JML c'est les acronymes de mon prénom et notre famille, du coup c'est Jackson Boutamoubalou, voilà.
D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venu au slam, un peu ton parcours, ce qui t'inspire ?
Je dirais que c'est un long enchaînement en fait. Depuis tout petit, j'aime beaucoup l'écriture. Je commençais tout d'abord à m'intéresser à la littérature française. Après, je commençais à écrire des poèmes. J'écrivais aussi des résumés des matchs que je regardais. Et en 2016, mon professeur m'a parlé du slam. Je ne savais pas c'était quoi en fait le slam. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai regardé un peu le slam. J'ai vu que c'était un style que je faisais déjà à la maison. En fait, je le faisais sans savoir que je faisais du slam. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer en public. Et j'ai regardé sur Internet, là où on faisait du slam à Orléans. Et j'ai vu qu'il y avait à l'époque la Java Pop, où il y avait des scènes slam. Et c'est comme ça que je me suis lancé dedans.
Incroyable, en fait, le slam, c'est presque inné chez toi.
Ouais, on dirait ça. On peut dire ça. Je dirais surtout l'écriture. Parce que je ne fais pas seulement du slam, il y a aussi de la poésie que je fais de temps en temps.
Ouais, c'est quelque chose que tu as commencé à faire vraiment naturellement.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui t'inspire dans ton écriture ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent un peu plus dans tes textes, peut-être ?
Je m'inspire de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. En fait, je n'ai pas une source d'inspiration unique. En fait, j'écris des parfois, j'écris des textes juste en regardant un film ou en écoutant un autre slam ou une autre chanson, en fait. Je m'inspire de tout ce que je vois.
Ok. Est-ce que tu dirais que ton art, c'est un art engagé ? Est-ce qu'il y a des sujets un peu d'actualité que tu aimes bien mettre en valeur ?
Oui, j'aime beaucoup faire le slam engagé parce que je trouve que c'est important. En fait, il y a beaucoup de sujets où des personnes, en fait, n'ose pas le dire et moi en tant qu'artiste je profite de cette casquette pour dire les choses que les gens disent tout bas et moi je les dis haut avec mon micro et je fais aussi d'autres styles à part le slam engagé. Il y a aussi j'écris des textes sur l'amour, sur la solitude et même sur de l'humour. Ouais, il y a des textes où j'ai fait de l'humour aussi.
Peut-être que tu pourras nous partager tout ce qui est amour et humour les semaines prochaines. Mais là, j'ai entendu dire que tu avais préparé un truc pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'on aurait le droit à une petite démo ?
Ouais, pourquoi pas. Et j'aimerais revenir sur la question dont tu m'as posé tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui m'inspire dans mon écriture. Et je dirais que dans mon écriture, en fait, tout ce que je vois, comme je vous ai dit. Et du coup, je vais vous partager un texte où je montre de manière pratique en fait tout ce qui m'inspire, notamment l'amour, le cosmos, le multimédia, le foot, la musique. Sans plus tarder, on y va.
Allons-y alors, on t'écoute.
Je voulais aller dans l'espace, mais ce n'est plus la peine. Car j'ai déjà des étoiles dans les yeux à chaque fois que je la regarde. Le problème est qu'elle a brisé mon cœur sans anesthésie. Mais t'inquiète pas, je suis ivre d'amour, je ne sens pas la douleur. Je me suis inscrit en physique pour mesurer la gravité de ton absence. Mais tous mes calculs se sont avérés faux car j'ai une équation inexplicable. J'ai décidé de faire une croix à tous avant que ma vie devienne transparente comme un PNG. Je peux faire un mercato comme le PSG, mais je ne saurais pas te remplacer. Ces réflexions mal placées m'y rendaient furieux. Aujourd'hui ça me manque, je ne fais rien sans penser à elle. J'ai la fortune d'Elon Musk, mais pauvre en amour comme un troubadour. On dit l'amour est doux, mais moi je galère à trouver mes repères. Avec elle, je croyais trouver ma paire. Au contraire, elle a réveillé mes peurs. Mes mots, je le perds en pensant à notre relation. On dit que l'amour est une école de la vie et la vie est le produit de l'amour. Maintenant tu as volé mon amour, qu'est-ce que je ferai encore à l'école? Est-ce que j'aurai encore le courage d'aimer une autre personne avec tous ces souvenirs qui résonnent dans ma tête? C'est décidé, j'arrête de croire en l'amour véritable. J'irai tout manger à ma table sans boire la coupe. Ma mère m'a donné la vie, toi tu me l'as fait vivre. Après toi, je fais que survivre. Avec toi j'avais la chance dans mon malheur. Même quand tu ne me parlais pas, tes yeux me donnaient l'heure. Moi qui n'arrive pas à aligner deux mots sans une faute orthographe, je me suis mis à écrire un roman d'amour avec un dactylographe, afin d'apprendre à ne plus effacer mes erreurs mais à les assumer. Tellement de problèmes que tellement de problèmes, je n'arrive pas à écrire mon roman. On me demande d'expliquer mon problème, mais tellement de regrets, je n'arrive pas à faire un résumé. Tes photos dans mon téléphone, je n'arrive pas à les supprimer. Ton doux parfum, je n'arrive pas à l'oublier. Difficile à supporter, ma voix intérieure bégaye. Je ne porte plus d'habits rouges pour éviter de penser à l'amour. Mes globules rouges ont changé de couleur pour ne plus me voir souffrir. Je ne mange plus de ketchup dans ma chop. Je n'écoute plus d'R&B ni de reggae pour ne pas avoir des regrets. Avant toi, mon cœur n'avait pas de toi. Avant que tu apparaisses dans ma vie, je pensais à toi. Avant toi, je marchais sans direction. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais la solitude. Tu m'as laissé seul, même avec la thune. Je n'arrive pas à rester solide. À cause de toi, mes sentiments sont à rupture des stocks. Voilà, c'était JML Slam.
Des applaudissements dans le studio. Merci en tout cas, JML. J'espère que les auditeurs ont tout aussi apprécié ton slam. Vraiment, merci.
Je t'en
et
prie.
On espère te retrouver les mercredis maintenant dans cette émission à 12h30 pour écouter d'autres slams.
Ouais, le rendez-vous il est pris tous les mercredis à partir des 12h30 pour un moment slam avec JML. Voilà.
Eh ben, les auditeurs, je pense, vont être ravis. Est-ce que pour enchaîner l'émission, peut-être un petit moment musical quand même, vu qu'on vient d'en sortir d'un très beau pour lâcher les émotions quand même un peu. Et pour ça, Birthday de Toc Toc à l'antenne. C'était Birthday de Toc Toc que vous venez d'entendre à notre antenne. Je m'embrouille. Dans cette fin d'émission, on nous reste un quart d'heure et on va parler d'éducation aux médias. À partir de demain, va commencer les rencontres de l'audiovisuel participatif. Daniel est avec nous pour en parler. Est-ce que je ne me suis pas trompé ?
Vont commencer.
Je m'en sortir.
Quoi, non. Allez. Donc, du 1er au 4 juin 2023, vont commencer les rencontres nationales de l'audiovisuel participatif au 108 à Orléans, 108 rue de Bourgogne, organisées par la Fédération nationale de l'audiovisuel participatif, avec donc une journée éducation aux médias et à l'information, EMI, le jeudi 1er juin 2023, avec donc des tables rondes permettant, favorisant les retours d'expérience sur les dynamiques de réseaux régionaux d'acteurs en éducation aux médias et à l'information. De 14h à 16h30, il y aura les nouvelles publications sur l'EMI qui seront dévoilées aux participants, participantes qui viendront de toute la France représenter les associations et médias citoyens participatifs locaux pour la plupart du temps. On pense à MAP36 par exemple, dont ils font partie et qu'ils représentent. De 11h à 12h30, il y aura des ateliers avec une approche critique du traitement médiatique de l'actualité sociale. Ce sera un petit peu le fil rouge qui nous mènera d'ailleurs jusqu'à la journée du vendredi, mais on en reparlera un peu plus tard. Il y aura également dans ces ateliers la création collaborative pardon, de l'information par l'usage du wiki, Wikipédia, Wikimédia, et des outils de participation citoyenne tels que, par exemple, à 17h, 18h30, le porteur de parole, informer, former, formater, désinformer. Où en sommes-nous de notre rapport à l'info? Il y aura également, enfin, une rencontre professionnelle entre 11h et 12h30, une rencontre des organismes de formation habilités à proposer la certification organisée par les CPNEF de l'audiovisuel et de la presse. CPNEF, ça veut dire Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation. Donc voilà, ces journées EMI rassembleront la participation du réseau Hémicycle, le collectif La Chance, le Labo Gérico, Synapse, collectif La Friche, Acrimed, etc., etc. Et bien évidemment, Radio Campus Orléans, partenaire de Zotelli, la web participative du 108 que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter, chers auditeurs, auditrices, auditrices, le samedi entre 15h et 16h.
Et pour y voir plus clair et se préparer du coup à cette rencontre qui s'annonce riche pour comprendre le monde de l'éducation des médias, justement, c'est quoi l'éducation aux médias?
Bonne question. Vaste question à laquelle peut-être l'invité que tu as eu lors des assises du journalisme, répond, non?
Oui, un peu. Alors, elle y répond. Elle nous explique pourquoi on a ce besoin d'éducation aux médias, notamment.
L'éducation aux médias, c'est une notion qui n'est rentrée dans le socle commun de l'éducation nationale, par exemple, qu'en 2015. C'est en fait, on est encore à apprendre à s'informer. Encore une fois, Facebook n'a pas 20 ans et c'est le premier des réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, on a besoin de... C'est l'analogie avec... on s'endort sous Napoléon III avec des calèches et d'un seul coup, on se retrouve avec des voitures électriques, des feux rouges, des essuie-glaces, une portière à ouvrir et on n'a pas le permis de conduire. Voilà.
Daniel, qu'est-ce que tu penses?
Alors, vaste sujet pour introduire l'éducation aux médias et à l'information à une époque où nous souffrons d'infobésité. Nous croulons sur les informations, sur les sollicitations de toutes sortes par les réseaux sociaux, nos appareils numériques portables qui ne nous quittent plus. Les médias existent depuis un certain temps. On peut penser aux médias plus traditionnels tels que le livre, qui est un média, hein, qui permet de diffuser de l'information. L'information est liée à l'histoire de l'humanité, mais les outils technologiques modernes se sont particulièrement accrus au cours du siècle dernier. Il y a eu d'abord, évidemment, la presse, ça c'était encore au siècle précédent, au 19e siècle, qui s'est largement développée en France et dans le monde. Et aujourd'hui, donc, il faut composer avec, en plus des médias traditionnels que sont la presse, la télévision, la radio et Internet, avec les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément des sites d'information, mais qui relaient des informations. Donc il est difficile de se faire, j'allais dire, un régime sain face à cette infobésité, un régime sain d'information. Et il faut, apprendre à équilibrer justement les sources justement d'information, les diversifier également, savoir les décrypter, savoir en quelque sorte quel est le Nutri-Score de nos informations. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont pertinentes, nécessaires? À qui elles s'adressent? Et puis, avons-nous vraiment besoin de tant d'informations? Plutôt, est-ce que face à cette disposition d'informations à profusion, à volonté, ne faudrait-il pas plutôt apprendre à la consommer? De quoi vraiment avons-nous besoin? De quelle information avons-nous besoin? Et c'est pour ça justement que vont se dérouler ces rencontres nationales de l'audiovisuel participatif qui impliquent le citoyen, la citoyenne dans la production d'informations. C'est ce que nous faisons à longueur d'année avec donc les ateliers d'expression radiophonique de Radio Campus Orléans. C'est ce que fait également Zotelli, la web TV participative du 108, avec laquelle nous collaborons, afin de permettre à toutes et à tous de se saisir de ces stylos, papier, caméra, enregistreur numérique portable, micro, etc., nécessaires pour diffuser cette information. Mais au préalable, il y a donc tout un travail de préparation, choisir un sujet, choisir un angle, c'est très important. Un sujet qui s'inscrit également dans la ligne éditoriale du média. Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'un sujet? Qu'est-ce qu'un angle? Qu'est-ce qu'une info, en fait? Voilà, qu'est-ce qu'une information? C'est peut-être d'ailleurs le prémisse de toutes les interventions que je peux mener dans les ateliers. Qu'est-ce qu'une information?
Et face à cette profusion d'informations que tu nous décris, comment bien gérer les outils? Isabelle Borde, que j'ai pu interviewer, répond à cette question.
Alors, ouais. Isabelle Borde, qui est journaliste.
C'est tout à fait. Elle est journaliste indépendante. Elle travaillait avant à Ouest France et on a pu la rencontrer lors des assises du journalisme qui sont déroulées fin mars. Je vous laisse écouter donc sa réponse concernant les outils que les gens peuvent utiliser pour s'informer. Merci. Alors, ce matin, vous avez participé à une conférence qui s'intéressait à la résidence de journalistes et au partage du coup d'expériences. On était avec d'autres personnes, des attachés de la TRAC, du ministère de la Culture. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer les grandes problématiques, les problématiques qui ressortent des résidences de journalistes?
Elles sont très vastes. À la fois, ça dépend d'où on se place. Si on se place dans l'intérêt du public, ces résidences de journalistes, elles permettent de... au long cours, de pouvoir donner des clés à la population pour mieux s'informer, pour repérer les sources fiables, pour savoir comment comprendre l'information tout simplement et se faire sa propre opinion à partir des informations qu'on récolte.
Du coup, elle expliquait que pour elle, c'était l'éducation aux médias qui était un moyen de s'informer. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Savoir comment fonctionne un média, qu'est-ce qu'un média, c'est le début justement pour s'informer. C'est même le préambule, le préalable qu'attaquent les professeurs documentalistes du collège Jean Rostand à Orléans, avec lesquels nous travaillons, car elles ont mis en place, donc je pense à Tiffany et Valérie, Tiffany Ouarot et Valérie Martin, Valérie Martin notamment, professeur documentaliste, qui a mis en place au sein de l'établissement une option média adressée à plusieurs élèves de 5e. Et c'est le début justement de leurs interventions. Elles commencent par qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'une information, comment s'informer, quel est le circuit de l'information, etc. etc.
Et justement, éduquer aux médias, ça demande des moyens. Et ces moyens, on ne les a pas forcément tout le temps, ou du moins... C'est un peu les acteurs qui se débrouillent pour...
Alors, c'est assez compliqué pour une professeure documentaliste qui est la référente éducation aux médias et à l'information au sein de son établissement de s'occuper de l'EMI, hein, c'est ce qu'on appelle donc l'EMI, pour toutes les classes. Ce sont énormément de classes, ce sont énormément d'élèves. Et donc, elle est là pour soutenir et former les enseignants de son établissement, justement, dans cette lourde tâche qu'est l'EMI. Et c'est vrai que les moyens, enfin le calendrier scolaire ne le permet pas toujours, les moyens peuvent manquer. Et surtout, ce qui manque peut-être aussi aux élèves, ce sont des moyens pratiques, techniques, rencontrer des journalistes, aller visiter des médias. C'est justement ce que permet cette option média qui, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, ne devrait pas être une option, ni même facultative, et devrait concerner... tous et toutes les collégiens, collégiennes des établissements. Enfin, peut-être qu'on pourrait... Alors, ça fait partie des matières, évidemment. Je sais qu'en français, ils vont aborder le journalisme, par exemple, en histoire, en EMC également. Mais on peut faire le lien aussi avec les sciences, d'accord, la médiation scientifique, par exemple, qui fait son apparition depuis quelques années. D'ailleurs, ça fait pas son apparition, mais continue de se développer sur les campus universitaires. et je pense notamment aussi au travail que peut faire le CNRS, enfin bref, je m'éparpille. Mais voilà, il y a beaucoup à faire dans le cadre de l'éducation aux médias, et pas seulement auprès des enfants et des jeunes, mais aussi auprès des adultes et même des personnes âgées. Qui sont, on peut le comprendre, quelquefois dépassés par cette profusion d'informations et ne sont pas forcément justement éduqués à la compréhension de ces nouveaux médias.
Et concernant les moyens qui sont attribués à l'éducation aux médias, Isabelle Borde avait répondu sur ce sujet. Je vous laisse écouter elle aussi sa réponse.
Des volontés, mais il n'y a pas forcément les moyens avec. C'est-à-dire que quand on écoute les profs doc principalement qui sont engagés dans l'éducation aux médias, ils font des miracles avec rien puisqu'ils n'ont pas d'heure dédiée. Donc il faut qu'ils convainquent le prof de français ou le prof de sciences nat, si par exemple on va parler de l'info sur le climat. Ça peut très bien être avec le prof de biologie, je ne sais pas comment vous dites aujourd'hui, des sciences de la Terre. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut trouver que des profs passionnés qui sont prêts à faire des acrobaties avec le programme, leur temps de travail et leur investissement pour familiariser leurs élèves au fonctionnement des médias. Donc c'est encore un peu des miracles à chaque fois.
Est-ce que vous voyez les difficultés de trouver... Enfin, est-ce que Daniel, tu vois les difficultés de trouver des professeurs?
Non, elle le dit très bien, et en même temps, tu vois, je n'ai pas envie me substituer à l'expression des professeurs. Alors, je me permets juste de rectifier tout à l'heure, j'ai mis la compréhension des médias, afin que les personnes âgées méritaient d'être accompagnées dans la compréhension des médias. Je voulais dire d'être accompagnées dans la compréhension du fonctionnement des médias. Voilà, c'est juste que j'ai fait une petite coquille. Non, elle le dit très bien, et voilà, je ne veux pas me substituer à l'expression citoyenne, justement, des... professeur documentaliste, mais c'est effectivement une parole que j'entends souvent, un manque de moyens au sein des établissements, parce qu'il faut aller convaincre, solliciter, trouver du temps, donc des heures dédiées, et elle le dit bien justement, un manque d'heures dédiées, mais c'est pareil pour l'éducation sexuelle, hein, mon cher Rodrigue. Non, mais c'est vrai, il y a des matières qui sont très nécessaires pour les jeunes et qui ne font malheureusement pas toujours partie du programme et qui repose sur la bonne volonté des enseignants-enseignantes.
Merci Daniel d'avoir pris le temps de parler un peu d'éducation aux médias avec nous durant ce dernier quart d'heure.
Oui, je peux faire une parenthèse, juste expliquer que les auditeurs-auditrices de Radio Campus Orléans peuvent chaque jour soutenir l'expression citoyenne de l'enfance, de la jeunesse, mais également des adultes, en écoutant le Moulin à Parole, les restitutions, donc des ateliers menés toutes les semaines à longueur d'année par Radio Campus Orléans sur l'agglomération orléanaise, mais pas seulement.
Et pour refermer aujourd'hui la partie d'éducation aux médias, on pose cette question à Isabelle Bordès. Est-ce que les journalistes ont eux aussi besoin d'éducation aux médias?
Donc en fait, c'est pour ça qu'on a tous besoin d'éducation aux médias, mais à la limite, y compris les journalistes. On ne le sait pas, mais dans les personnes qui finissent par se faire avoir dans les théories du complot, William Audureau du Monde, il montre ça très bien, il y a aussi des journalistes. Il n'y a pas de profil sociaux, de classe sociale ou de QI qui est plus ou moins sensible aux théories du complot. On peut tous avoir la faille à un moment et avoir envie de croire quelque chose à laquelle on a envie de croire.
Voilà, il est 12h59 déjà sur Radio Campus Orléans. Demain, n'hésitez pas donc à vous rendre aux rencontres nationales de l'audiovisuel participatif. Ce sera au 108. Quant à moi, je vous dis à demain. À 13h, retrouvez Rocologie. À 14h, ce sera l'art qui parle de notre temps. À 15h, normalement, c'est le Moulin à Parole. C'est bien ça, Daniel?
Oui. Et demain, il y a le rendez-vous.
Guinguette sur
une première.
Écoute ta fac.
Voilà, on a hâte.
Je vous laisse donc en musique avec Icole Verne.